Europe Midi, écoutez le monde changer. Patrick Cohen.
Bonjour René Friedman.
Bonjour Patrick
professeur
Cohen.
De gynécologie obstétrique, pionnier de la fécondation in vitro. Vous publiez chez Grasset une histoire de la naissance et vous faites partie de cette histoire depuis 82 avec la naissance d'Amandine, premier bébé éprouvette français comme on disait à l'époque et dont vous dévoilez d'ailleurs quelques coulisses dans ce livre Les ruses à l'hôpital de Clamart pour garder le secret. C'est une histoire qui ne cesse d'évoluer, de progresser, mais pour vous, une naissance, c'est d'abord et toujours un émerveillement.
Oui, incontestablement, la chance de pouvoir travailler sur les difficultés de l'infertilité et participer bien sûr à l'engouement de la fécondation in vitro, mais qui va jusqu'au bout 9 mois plus tard, quand vous avez vu un embryon au microscope d'un dixième de millimètre, et que 9 mois plus tard vous avez un regard de la femme, du conjoint, tellement intense, c'est irréaliste, hein. Je veux dire. Mais enfin, ça existe quand même. On l'a vu. On se pince pour dire, mais oui, mais ce bébé, il était comme ça, d'un dixième de millimètre. Voilà. On est confronté à du mystérieux, à du très beau, et en même temps avec des questions réelles sur le plan scientifique et des grosses difficultés parce que malheureusement, toutes ces techniques et même en dehors des techniques. Le désir d'enfant ne se réalise pas aussi simplement. Il passe avec beaucoup d'échecs, beaucoup d'incertitudes.
Vous parcourez d'abord les naissances mythiques, comme celle de Jésus, les naissances extraordinaires et les rituels qui vont avec. Et puis les premières questions éthiques auxquelles vous êtes confrontés, la mort d'une jeune fille en 67 à l'hôpital Tenon, victime d'un avortement sauvage et d'une septicémie.
Oui, la conséquence d'une septicémie. Oui.
C'est l'une des images qui vous a marqué et qui vous a convaincu que les lois de la nature sont souvent cruelles et que la médecine est là pour les corriger, René Friedman?
Ben oui, Patrick Cohen, c'est que si la nature était excellente, il n'y aurait pas de médecins. Les médecins sont là pour essayer de ramener les choses dans le bon chemin, parfois
donc ceux
d'en
qui
ouvrir
pensent,
d'autres.
Donc ceux qui disent ou qui pensent que les lois de la nature doivent être absolument respectées, qu'elles prévalent surtout, pensez qu'ils font fausse route.
Ben voilà, il y a tellement de maladies, tellement d'accidents, tellement si on n'intervient pas. Donc le pouvoir de l'homme, c'est d'intervenir sur l'homme et de l'aider. Alors maintenant, il y a toujours ce côté surnaturel. Vous citiez la première partie du livre, les naissances mythiques. C'est vrai que ça m'a fasciné. Parce que d'une part, bon, bien sûr, il y a l'Immaculée Conception, mais il y a par exemple le fait qu'à chaque fois dans le surnaturel, la naissance, elle se fait hors sexe. C'est-à-dire Zeus, c'est dans la cuisse pour Dionysos, c'est Athéna dans la tête, pour en Inde, c'est par l'oreille. C'est toujours, c'est pas sexué. Quand c'est sexué, ça devient courant, ça devient peut-être animal entre guillemets. Donc le surnaturel doit être asexué. Alors, dans la fécondation in vitro, où on est justement une dissociation entre le sexe et puis la fécondation, c'est pas aussi surnaturel que ça maintenant, mais ça reste quand même une transgression. Ça a été une transgression. Ouais. Ça reste une transgression parce que, je dis souvent, ce qui était invisible est devenu visible. Ce qui n'était intouchable est devenu manipulable. Et c'est vrai que là, devant nous, on voit bien qu'avec les ciseaux génétiques, avec d'autres possibilités d'interaction, on peut, les deux, intervenir pour modifier l'évolution naturelle. Donc, qu'est-ce que c'est que la médecine? Corriger les erreurs de la nature? Est-ce que c'est dépasser la nature? C'est un autre débat qui va sur l'homme transcendant ou pas, et de quel droit on le ferait.
Fécondation in vitro qui devrait donc bientôt profiter à toutes les femmes, y compris les femmes seules ou les couples de lesbiennes. C'est l'objet de la PMA, la procréation médicalement assistée. Après des années de débat, sa légalisation devrait intervenir fin juin, après le vote définitif des députés. Mais votre combat depuis des années, René Friedman, c'est celui contre l'infertilité et contre le manque de moyens de la recherche française. C'est une question que vous posez dans le livre. Pourquoi une tentative de grossesse n'aboutit-elle que dans 20 à 25% des cas?
Oui, on a une tonne de questions. Pourquoi ce taux de fausse couche est élevé? Qu'est-ce qui déclenche l'implantation ou pas, vous voyez, d'un embryon? Pourquoi est-ce qu'il va s'implanter ou pas? On a vraiment une tonne de questions à résoudre.
Et on ne met pas les moyens pour trouver ces réponses?
En tous les cas, bon, d'abord, j'ai envie de dire que, vous savez, quand je regarde toutes les étapes pendant les 40 ans que je raconte, mais la fécondation in vitro elle-même, la congélation des embryons, le diagnostic préimplantatoire, la congélation des ovocytes. À chaque fois, ça a été une bataille au plus haut niveau de l'État et du Parlement et de la représentation nationale pour faire passer des idées, pas toutes, parce que je pense qu'il y en a qu'il faut pas, sur lesquelles il faut pas aller. Par exemple, on y reviendra peut-être, mais la GPA ou le clonage sont des pour moi, ce sont des interdictions. Mais quand on doit avancer et offrir des possibilités nouvelles, il faut le faire. Mais pour ça, il faut initier. Et l'initiation, le début de la recherche, n'est pas suffisamment valorisé en France. Tout le monde, vraiment, il suffit de faire. Puisque aujourd'hui, je vois que, avant même une élection, on parle déjà de sondage et on a déjà le résultat. Faisons un sondage au niveau des scientifiques, tout le monde est d'accord. On passe à une espèce de millefeuille qui va durer 4-5 ans avant d'avoir les autorisations. Et au moment où on commence enfin à travailler, on s'aperçoit que nos petits copains, ici ou là, ont déjà bien avancé.
C'est comme ça, par exemple, que pour la greffe de l'utérus, qui est encore expérimentale en France, on s'est fait griller par la... C'était la Suède,
oui,
hein. Alors... Et quand vous en aviez parlé au début, les autorités vous ont répondu que c'était pas une priorité du tout.
Oui, effectivement. Effectivement, j'avais demandé au Comité national d'éthique qu'est-ce qu'ils pensaient. On m'a dit, non, mais c'est pas du tout à l'ordre du jour, on n'a pas le temps, on est débordé et tout ça. Et 3 mois après, il y avait la première naissance
en Suède.
Alors, bon, on l'a réussi, comme vous le savez, je dirais, à Foch, avec l'équipe de Foch. C'est une victoire importante qui mérite, comme toutes les avancées, d'être évaluée. Donc, il faut encore nous laisser le temps pour évaluer ici ou là, sur tous les plans, physiques, psychologiques, sociétaux, la mesure de cette nouveauté. Parce que franchement, greffer un utérus, c'était pas évident.
Ouais. Et dans le même temps, autre question... Pourquoi y a-t-il encore une centaine de femmes enceintes qui meurent en couche chaque année dans notre pays?
Alors, il faut dire déjà qu'il y a une baisse importante.
Bien sûr.
Parce que ces dernières années, je raconte...
Et la mortalité périnatale a considérablement chuté depuis des décennies.
Mais il est vrai que, si vous voulez, il y a plusieurs questions, des questions imparables, bien sûr. Il y a des maladies qui surviennent et qui emportent. L'objectif, c'est d'analyser chaque cas et de dire qu'est-ce que là on aurait pu faire et peut-être de prendre un certain nombre de mesures. Alors c'est vrai qu'en France, on a théoriquement, sauf quand il y a des pannes de téléphone, on a des SAMU, on a des pompiers, on a quand même une organisation qui fait que notre pays, par rapport aux autres pays, est pas trop mal, mais on peut toujours regretter la perte d'une personne, bien entendu. Ceci étant, attention, à l'échelle mondiale, vous savez, il y a 500 000 femmes qui meurent par an autour de la grossesse, dans le monde entier. Donc, ça ne veut pas justifier ce qui se passe là, on veut toujours mieux faire. Mais je veux dire, voilà, on a avancé et on est constamment en train d'avancer autour de ce bonheur de l'accouchement, quand il est bien désiré, bien maîtrisé, mais ce n'est pas toujours simple.
Et rapidement, René Friedman, comment définir la limite de ces recherches? Vous avez dit tout à l'heure, la GPA,
Oui, vous avez raison, c'est un peu rapide de dire les choses comme ça. On peut comprendre d'abord le désir des uns ou des autres. Je crois que la ligne rouge, elle est lorsqu'on utilise quelqu'un à ses propres désirs. Et je fais souvent la comparaison avec l'esclavage, par exemple, enfin, des choses comme ça, bien sûr. Et puis, surtout, lorsqu'on va sortir du respect de la dignité de l'autre. C'est-à-dire qu'un enfant, il n'est pas là pour être désigné avec telle ou telle caractéristique. Il est là pour vivre sa vie entre plusieurs personnes, sa famille, habituellement un père et une mère, ou bien d'autres gens qui sont autour, et se forger sa propre individualité. C'est en tout cas ce qu'on peut souhaiter, me semble-t-il.
Merci beaucoup René Friedman, une histoire de la naissance chez Grasset. Une histoire de la naissance chez Grasset en coproduction avec, coédition avec France Culture. C'est passionnant et c'est le produit de 40 ans et sans doute un peu plus de vie, d'expérience professionnelle. Merci à vous.
Merci.